RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
7h30 pour une nouvelle émission. Bonjour mon cher François.
Nagui, comment ça va ?
Ça va.
Ah écoute, moi ça va. Il fait pas, c'est pas terrible là. Hein. Bon, il va faire meilleur cet après-midi, mais c'est pas terrible, terrible. Hein.
Bah, c'est un temps de saison.
Nous sommes le 11 octobre. Effectivement, on est à 81 jours de la fin de l'année.
Mm-hmm.
On est le jour du pressoir.
Ah ouais, après c'est quoi? Donc,
j'ai une idée, mais je vais pas la dire.
Oh
alors,
non.
C'est un peu. J'ai cherché ce qui s'était passé un 11 octobre et en fait, c'est un peu une journée de merde, je te le dis sincèrement. Il y a quasiment rien qui s'est passé. Il y a eu en 1802 la création du parachute. Sans parachute, il n'y aurait peut-être pas eu la Légion à Calvi.
Eh oui.
Alors, les anniversaires. Jean-Jacques Goldman.
Oui, Goldman, ouais, il est né en 51.
Linda Hardy.
Mmh. Ex-Mix France, c'était Ex-Mix la 45e. Ouais.
La Rousseau.
Oui, née en 79.
Tu m'oublieras, bah d'ailleurs, titre...
Phare.
Et surtout, je pense qu'il annonçait un peu aussi la suite de sa carrière.
De son vrai nom, elle s'appelle Laetitia Serrero.
Ah. Ouais. Luc Perry, c'était Dylan McKay dans Beverly Hills. Toutes les femmes étaient folles de lui. Moi, quand j'étais au collège, je le détestais.
Ouais.
Il est décédé, le pauvre, donc on va pas... Là...
Il était né en 66, lui.
En 66. Mmh. Alors, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la fille, des filles. Donc, on les embrasse toutes.
Hein. Mais...
Aujourd'hui, dans les pays États-Unis, Mexique, tous les pays un peu Amérique latine et Amérique du Nord, c'est la journée du coming out.
Mmh.
Donc, s'il y a des gens qui veulent, qui n'hésitent pas. Il y a la Saint-Firmin, la Saint-Emmanuel, la Saint-Kenneth. Alors, je ne savais pas que c'était un prénom qui était dans le calendrier, tu vois.
Je ne sais même pas.
Et la Saint-Soledad.
La Saint-Quoi ?
Tu vois, Soledad.
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 Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Donc, Éric Zemmour en Corse. Moi, je vous le dis sincèrement, je commence à en avoir un petit peu marre, tu vois, parce que...
Donc, ça suffit.
La vie est chère, les loyers sont indécents en Corse.
Et l'essence aussi.
Il n'y a pas de respect de l'environnement. On a des saisons touristiques qui sont quand même assez schizophréniques. Et Éric Zemmour a monopolisé pendant une semaine quand même... sur deux jours en Corse, l'actualité.
C'est vrai que ça a bardé d'ailleurs quand il est venu.
Ouais, c'était un peu chaud. Il
ouais.
Y a un de mes personnages préférés, Tyson Fury, qui a conservé sa ceinture en poids lourd. Mmh. Alors j'aime beaucoup ce garçon, c'est la résilience. Hein. Il y a une histoire et une trajectoire assez particulière. Et on annonce que c'était quand même le combat de la décennie.
Ah ouais,
c'était digne d'un scénario à la Rocky, tu vois. Il est tombé, ils sont tombés, ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Autriche, le chancelier Kurz, soupçonné de corruption, a démissionné. Alors, si ça pouvait inspirer quelques élus français.
Voilà, oui, parce qu'il n'y a pas que là-bas, hein, sans commentaire.
On est toujours sur Octobre Rose. Aujourd'hui, je reçois Colomba Charpin. Ça faisait un moment que je voulais la voir. Ouais. Colomba, comment ça va?
Ça va bien, merci de m'avoir invité.
Alors, n'hésite pas à parler un peu plus fort, voilà. Alors, on va parler, bien sûr, vous vous en doutez, hein, c'est un peu la référente Félin à Calvi.
C'est
voilà,
ça, protection animale.
Avec l'association Félin Possible. Alors, avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet, parce que l'association, elle travaille beaucoup, elle œuvre beaucoup à Calvi auprès des chats, la première question que je pose toujours aux invités, c'est... si tu dois revenir le plus loin possible, quel est ton premier souvenir calvé?
Mon premier souvenir calvé, mes premiers pas, je pense, sur le port de commerce. Ça doit être de ces souvenirs-là, en fait, que j'ai mon arrière-grand-mère dans la rue Alsace-Lorraine. Ce genre de souvenirs, en fait, que je vais avoir. Hein.
Et au niveau scolaire, quel type d'élève t'étais?
Je pense que j'étais calme, j'étais... non, je sais pas. J'étais pas trop dissipée, j'étais plutôt calme et tranquille. Ouais, ça a pas été... J'ai fait ma scolarité ici. Ma terminale à Île-Rousse, et après je suis partie sur Toulon. Et je suis revenue au final.
Ah, toi, tu as été dans les premières fournées du lycée de Balagne.
Exactement, moi j'ai connu les premières fournées.
Et donc c'était comment c'était...
C'était assez sympa, on avait des descendants du foie du FLNC dans la cour qui nous distribuait des tracts. Donc c'était sympa, mais ouais, l'année de terminale, en revanche, c'était une année un peu difficile puisque c'est l'année où il y a eu Fouriane et la tragédie, donc c'est vrai que... Ça avait été une année un peu
lourde.
Particulière.
Alors, tout le monde le sait, hein, à part ceux qui ne sont pas hyper connectés et très au courant de ce qui se passe à Calvi. Voilà, tu es la présidente de l'association Fais l'Impossible.
C'est ça.
La création de l'association, elle date de quand ?
Ça fait à peu près un peu plus de 5 ans maintenant que j'ai créé l'association. Au départ, c'était juste comme beaucoup de personnes bénévoles, des nourrisseuses, ce qu'on appelle, je donnais à manger régulièrement à des animaux, enfin à des chats particulièrement. Et au bout d'un moment, j'ai voulu avoir une légitimité de façon à pouvoir aussi demander peut-être de l'aide pour les stérilisations, pour ce genre de choses auprès de plus grosses associations comme la Fondation Berdot ou la SPA. Et pouvoir commencer des stérilisations.
Au niveau des bénévoles, ça représente combien de personnes autour de toi ?
On doit avoir, on va dire qu'on a à peu près entre 8 et 10 bénévoles.
8 et 10 bénévoles qui nourrissaient...
Alors, il y a les nourrisseuses, et puis après, il y a une personne qui s'occupe des contacts pour les adoptions. Une autre personne que l'on a aussi qui fait un peu famille d'accueil, mais qui est surtout... celle qu'on appelle notre mule 4 étoiles, puisqu'elle fait des allers-retours réguliers sur Nice. Donc du coup, on a beaucoup d'adoptions là-bas et ça nous permet de pouvoir vraiment emmener des chatons régulièrement. Et puis après, on a toutes les personnes ici qui sont familles d'accueil, qui trappent. Voilà, c'est vraiment chacun un peu sa spécialité, on va dire.
Alors, pour donner un peu un ordre d'idée... Parce que tu m'avais dit qu'entre le début où avant le début de l'émission, au début où tu t'occupais des chats et aujourd'hui, il y a quand même, avec le réchauffement climatique, il y a beaucoup plus de portées.
Oui, on a énormément de portées. On était sur maximum 2 portées par an. Aujourd'hui, on se retrouve quasiment avec 3 portées par an, donc ce qui est énorme. Des chattes qui sont épuisées, parce que forcément... c'est des chatons à répétition, elles n'arrivent plus vraiment à les nourrir, donc il y a beaucoup de... elles les abandonnent souvent. On a des chatons qui sont en très mauvais état, beaucoup de coryza, beaucoup de typhus, de maladies, de coronavirus et autre chose. Quoi.
Donc, oui, il y avait eu d'ailleurs une petite épidémie de typhus au premier confinement.
Ouais, mais en fait, le typhus est toujours là.
Il est toujours là ?
Le typhus est toujours là. Et en discutant avec des personnes de la SPA du continent, eux aussi ont énormément de cas.
Alors ça, ce serait peut-être dû finalement au...
C'est un virus en fait qu'on transporte partout, qu'on peut caresser un chat qui l'a, le transmettre à un autre, l'emmener chez nous par le biais des chaussures.
C'est vaccination, il n'y a que la vaccination.
Vaccination obligatoire, c'est surtout une maladie infantile, donc vraiment pour les chatons.
Au niveau du nombre de chats récupérés par an, est-ce que tu as un chiffre sur Calvi ? Parce que je pense que ça peut un peu faire réaliser aux gens la charge de travail quand même que ça représente.
Au niveau des chatons, on en a à peu près, cette année, je pense qu'on en a à peu près une soixantaine.
Une soixantaine, oui, donc c'est quand même assez conséquent.
Oui, sachant qu'on n'a pas de locaux et qu'on est vraiment obligé de prendre tous les risques en les ramenant chez nous et en trouvant des solutions avec les familles d'accueil, quoi.
Et en termes d'adoption, on va dire qu'on est presque à 100%.
La quasi-totalité, oui, des chatons sont adoptés. On a de la chance.
Donc, on va parler du nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est les finances.
C'est ça.
Année de pandémie oblige, je suppose que ça a dû aussi quand même pas mal impacter l'association.
C'est beaucoup, sachant que bon, les frais vétérinaires, eux, ne diminuent pas. Donc, tous les mois, on a des factures assez conséquentes à payer. Parce que faut pas, voilà, les chatons, il faut les soigner, les nourrir, sachant qu'un chaton, quand les gens l'adoptent, il est passé chez le vétérinaire, il a eu un suivi, il a un certificat de bonne santé, il a une puce électronique qui est obligatoire.
Alors ça, on y reviendra aussi, hein, parce que ça fait partie des choses qui sont obligatoires et que... Alors, je pense que des fois, les gens ils pensent même pas au fait. Hein. Des fois, il ne faut pas voir à mal.
Non, c'est pas voir à mal.
Parce qu'il y a la culture corse aussi. Mmh. On avait parlé avec Sophie Dallest qui s'occupe de nos amis à quatre pattes. Il y a une tradition corse du chien qui divague un peu.
C'est ça.
Tandis que bon, la loi dit bien qu'un chien ne doit pas être en divagation.
C'est ça.
Et sur le chat, on est un petit peu pareil. C'est-à-dire le chat, il rentre, il sort.
Le chat, voilà, on dit toujours qu'il peut se débrouiller, qu'il va trouver toujours de la nourriture, ceci, cela. Or, on n'est plus du tout sur un chat sauvage. Il faut oublier l'idée que...
Les chats que vous récupérez ou les chats qu'on voit errer dans la ville ne sont pas sauvages. Hein.
Ce ne sont pas des chats sauvages. Ce sont des chats qui vivent en ville et qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux et qu'on leur donne à manger parce que forcément, ça, voilà. Quoi.
En termes de coûts fixes, alors je sais que l'association a des... On a des aides de la mairie. Hein.
Oui, on a la mairie qui nous aide pour les stérilisations, qui a décidé donc de... Ça fait déjà de, on a déjà eu pour 12 000 euros de stérilisation qui ont été faites sur Calvi. Donc il y a certains secteurs qui ont vraiment été épurés.
Alors je tiens à parler quand même que c'est une obligation hein, depuis quelques temps
stérilisation...
de la part des municipalités.
Alors
hein.
Là, il vient d'y avoir justement un nouveau débat qu'il y a eu. Où justement, ce n'est plus une obligation au niveau de la du maire de stériliser. Ils ont enlevé cette obligation.
Ah, d'accord. Donc,
c'est
ça,
tout récent.
Ça fait plus de poids sur les associations.
Exactement.
J'ai même vu passer des articles où il y avait des chasseurs qui avaient demandé dans certaines zones où il y avait une surpopulation de chats errants, entre guillemets, s'ils pouvaient faire entre guillemets, du prélèvement, quoi. C'était quand même assez hallucinant. Je crois que c'était dans l'Oise ou dans l'Aube, où des chasseurs s'étaient proposés carrément d'abattre des chats. Errant. Ah oui, non, mais on est
dans un monde de fous.
On est dans un monde de fous.
C'est une pure folie, ça.
Ah oui, oui, oui. Sur les coûts fixes, donc il y a les vétos, nourriture, tout ça. Est-ce que vraiment pour. Parce que des fois, les gens, ils ne réalisent pas trop et tout. Est-ce que tu as un ordre d'idées
Pour dire la facture de ce mois-ci, elle est de 1200 euros chez le vétérinaire.
1200 euros avec. Alors les vétos, je suppose qu'ils.
Alors, on a les tarifs. Au niveau de la stérilisation et femelle et mâle, donc la femelle nous coûte aux environs des 80-90 euros et le mâle doit être aux alentours des 40 euros.
D'accord.
Donc et après, on n'a pas plus de tarifs que ça, on va dire.
Alors en plus, moi j'avais parlé avec un vétérinaire, il faut savoir qu'un animal non stérilisé, un chat non stérilisé, a quand même une espérance de vie beaucoup plus courte.
Qui est moindre. Hein? Tout à fait.
Parce que pour les femelles, c'est un épuisement constant. Et puis pour les mâles, c'est des bagarres.
Voilà, l'utérus se dilate complètement et c'est horrible, quoi. Elles finissent dans d'atroces souffrances. Et sans parler des maladies, parce qu'il y a le FIV, donc c'est le sida des chats. Il y a la PIF, il y a beaucoup de choses qui se transmettent entre eux, notamment dans les bagarres, les morsures. Et donc ça fait une population féline qui n'est plus du tout saine. Et qui vont engendrer, donc ces femelles vont mettre au monde des petits qui sont déjà malades.
Qui sont déjà malades.
Donc c'est très difficile à faire comprendre aux gens que même si on a un mâle, mais il faut le faire stériliser.
Parce que j'ai un petit peu étudié, il faut savoir qu'un mâle et une femelle errantes, sur l'ensemble de leur vie, peuvent générer les enfants, des enfants, des enfants de ce mâle alpha et de cette femelle alpha. On est sur plus de 100 000 individus. Hein.
Oui, c'est énorme. Ça va
donc,
très vite.
On ne s'en rend pas compte, mais au fait, donc, on estime qu'un chat errant vit 10 ans. Sur 10 ans, les enfants des enfants des enfants des enfants des enfants, c'est 100 000, plus de 100 000 individus.
Ça fait des chats.
Sachant qu'une femelle peut commencer peut être prise à partir de l'âge de 5 mois.
Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment que les gens réalisent ça. Est-ce qu'on est dans une station balnéaire, donc une ville assez touristique ? On sort un petit peu de cette saison, on commence un peu à respirer. Pouvoir se garer en ville, ça y est.
Ah, youpi. En scooter, ça va, j'ai pas trop de mal.
Est-ce qu'il y a un surabandon en période estivale? Est-ce que toi, tu le ressens ou finalement, c'est quand même assez constant?
Alors,
ou...
en fait, les gens se donnent bonne conscience en donnant à manger aux chats. Les gens qui sont en vacances, les touristes ou autres, bon, ils arrivent, ils voient une problématique qui est réelle de nombreux chats abandonnés. Qui
ça,
sont...
c'est des retours de touristes ou de gens qui ont des résidences secondaires qui te disent voilà,
je ferme ma maison, venez récupérer les chats. Or, on ne peut pas venir récupérer un chat comme ça. Déjà, on n'a pas de structure. Et secondo, on ne prend pas un chat pour le mettre d'un point A pour le mettre à un point B. Il a ses habitudes, le chat. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Donc, et sans compter les petits, bien entendu. Et puis, son pétérinel. Phrase que l'on entend, c'est « Oui, mais c'est pas mon chat. » Donc voilà, ça c'est un truc, c'est régulier, c'est récurrent, c'est pas mon chat, moi je vais juste donner à manger. Bon, il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, quand on donne à manger un animal, on en devient responsable. Il faut arrêter de se dire « Non, c'est pas à moi, je donne juste à manger, c'est un peu trop facile. »
Oui, parce que je pense qu'au départ, ça vient d'un bon sentiment. C'est-à-dire qu'on se dit « Voilà, voilà j'ai le chat qui traîne
exactement,
sur le terrain. »
Exactement, voilà, je vais lui donner
deux, trois croquettes et tout. Sauf qu'après, ça devient... Ça
le
devient
chat, bon, le pauvre, le chat, ben, lui, voilà, lui, il est content. Il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, qui lui donne à manger. Voilà, donc moi, ce que j'invite les gens à faire, si vraiment ils sont dans des situations délicates, c'est peut-être de voir avec les associations pour trouver une solution, de demander peut-être à un veto aussi, des échelonnements au niveau du paiement de, pour la stérilisation, ce genre de choses, quoi.
Oui, parce que en dehors de ton association, moi je connais des gens, hein, à la Citadelle, pas très loin d'ici, hein, qui ont beaucoup œuvré pour la stérilisation, parce qu'à un moment à la Citadelle il y avait d'énormes problèmes. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas,
non.
Mais en tout cas,
beaucoup moins.
C'était sur des initiatives individuelles.
C'est personnel à chaque fois, de toute façon, c'est des initiatives personnelles. C'est avant que la mairie ne nous aide, en fait, on était vraiment, nous, ça nous prenait encore plus d'argent et de moyens pour faire les stérilisations, quoi. C'est un coût qui est très conséquent. Donc là, c'est vrai qu'avec le coup de pouce de la mairie, ça nous aide énormément. Sachant que d'ici un mois et demi, je pense que là, on a les fonds qui vont arriver. Donc on va pouvoir recommencer. Et ce qu'on peut dire aux gens, c'est de prendre contact avec nous, de nous dire, voilà, moi, j'ai tel secteur, je m'en sors pas, je nourris ou autre. Et à ce moment-là, essayer que l'on
Il y a des secteurs qui sont plus impactés que d'autres à Calvi.
Il y a Pietra Maggiore qui est très, très impacté, avec beaucoup de maladies et énormément de chats. D'autres secteurs ont été épurés grâce aussi à des bénévoles, hein, qui ont donné d'eux-mêmes, qui ont payé par eux-mêmes, hein, de toute façon, les stérilisations. Donc, les collines, on a commencé déjà à bien épurer. Le centre-ville de Calvi également. Bon, après, il reste encore beaucoup de secteurs. Il y a tout le secteur de Tramaric à faire.
Champeau.
Voilà, Champeau. Le Paysol a été fait. Donc, c'est vrai qu'il y a encore quand même pas mal de... Mmh. Alors, secteurs.
Je trouve... une petite question. Par contre, j'ai remarqué que lorsqu'un animal est stérilisé, l'animal prend du poids. On m'entend pas ?
Si, si, ah oui, on t'entend.
L'animal grossit, non,
moi,
prend
pas
du poids.
Elle
pose la question, François.
En fait, c'est-à-dire que Naïm pose la question. Ce qu'il a remarqué, c'est quand les animaux sont stérilisés, ils ont tendance à prendre du poids.
Long
oui,
point.
C'est normal.
Donc, du coup, il faut refaire l'alimentation, il faut tout changer.
Donc, est-ce qu'il faut revoir l'alimentation ou est-ce que...
Après, oui, il y a un manque, forcément. L'animal va grossir, il va s'empâter un peu parce qu'il y a moins d'exercice, parce que... Ben, il court un peu moins la gueuse, entre guillemets.
Donc, oui, il va moins loin.
Forcément. Et puis, alors après, il ne faut pas non plus penser que ce que vous voyez au niveau du ventre, cette poche qui pend, c'est un signe qu'il est trop gros. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. C'est la poche primordiale. C'est quelque chose qui protège les organes du chat. Donc, votre chat, il n'est pas gros. Quand il a été stérilisé, il n'y a pas eu de problème. C'est simplement une poche qui est là naturellement. Et comme il est stérilisé maintenant, ça va protéger ses organes internes.
D'accord.
Donc, ne pensez pas, quand vous voyez ça, qu'il est obèse et qu'il a la peau qui pond.
Donc, moi, j'ai une question. Je trouve un chat. À Calvi. Alors, il est petit. Parce que le problème, il se pose, les gens ont des légendes urbaines un petit peu sur les chatons. Qu'est-ce que je fais ?
Bah, dans un premier temps, il faut le mettre à l'abri, dans un endroit qui est propre, forcément. Au chaud, lui donner de l'eau, pas de lait.
Voilà, ça c'est un petit peu la légende urbaine.
Voilà, surtout pas de lait de vache ou quoi que ce soit. Du lait vraiment, sinon maternisé qui est fait exprès pour les chatons qu'on trouve en pharmacie ou chez le vétérinaire s'il en a besoin. On peut simplement aussi prendre des croquettes, les humidifier, mettre de l'eau pour qu'elle soit plus molle et le faire manger, lui donner de la pâtée. Pas le mettre en contact direct avec ses autres animaux s'ils ne sont pas vaccinés. Le mettre vraiment dans un endroit, contacter une association pour voir si elle peut faire quelque chose. Le cas échéant, le garder quelque temps en famille d'accueil pour nous permettre, nous, association, de lui trouver une famille.
Alors, justement...
Sachant que, voilà, si on en retombe sur les familles d'accueil...
On va en parler, parce que avant je voulais faire un petit laïus sur ce qui concerne la règle, la loi. Alors, on va me trouver très rigoriste sur le sujet. Mais voilà, on a parlé, il y a le puçage qui est obligatoire.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est quand même quelque chose qui permet...
Sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même...
Parce que ça vous impacte aussi, parce qu'on doit vous ramener des chats qui sont pucés. En se disant, tiens, j'ai trouvé un chat, mais au fait, le chat appartient à quelqu'un.
Oui,
donc
mais
ça vous monopolise du temps.
Mais le chat n'étant pas pucé la plupart du temps, voilà quoi.
Ça vous faciliterait le travail quand on vous ramène un chat.
Ça faciliterait énormément le travail. De toute façon, on a juste à l'emmener chez le vétérinaire, il lui passe un scan et de suite, on sait à qui appartient l'animal.
La deuxième chose, c'est la stérilisation. Alors, moi, je me pose, elle est obligatoire ?
Elle n'est pas obligatoire, la stérilisation. Elle devrait l'être. Elle est passée obligatoire en Belgique, où maintenant tous les propriétaires sont obligés de stériliser leurs animaux, mais elle n'est pas encore obligatoire. En revanche, nous, pour toutes les personnes qui adoptent avec notre association, ils signent un contrat d'adoption Et dans ce contrat d'adoption, il est stipulé, donc l'animal reste au nom de l'association jusqu'au moment où
il
est stérilisé, à ses 6 mois donc. Si l'animal n'est pas stérilisé à ses 6 mois, il est récupéré.
C'est les conditions d'adoption.
Exactement.
De fait impossible. Alors, je suppose que tu dois avoir aussi les effets de mode, subir un petit peu ça, c'est-à-dire que le bambin a 5-6 ans, on ne sait pas quoi lui offrir à Noël, et on se dit, tiens, si j'allais acheter un chaton, et on s'aperçoit qu'au fait, le chaton, bah, il griffe les murs, que le chaton, bah, en fait, il est hyperactif la nuit, et finalement, bah, il casse les pieds.
Bah, il faut se dire que déjà, ce n'est pas une peluche que l'on prend. Hein.
Voilà.
On est loin de la peluche. Souvent, les gens idéalisent un petit peu la chose par les pubs que l'on peut voir, le chaton tout mignon, qui vous fait que des ronrons, qui dort et qui mange, voilà, qui fait pas grand-chose. C'est pas ça du tout. Un chat, ben, ça a sa propre personnalité.
C'est une espérance de vie de combien pour un chat qui est...
En bonne santé, entre 13 et 15 ans.
Voilà, on signe un contrat, entre guillemets, de plus de 10 ans. Quoi,
ah,
hein,
oui,
donc, on va s'impacter sur 10 ans.
C'est ça. S'il est en bonne santé, qu'il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, quoi. Mais voilà, il faut s'enlever les clichés, ces clichés-là. Il a son propre caractère, sa propre manière de fonctionner. Vous pouvez tomber aussi bien sur un chaton qui va être un pot de colle et qui va être câlin. Et voilà, tout comme tomber bah, sur un chat qui sera indépendant, qui aura son propre caractère et ses propres hobbies, on va dire.
Il y a aussi les annonces, c'est-à-dire que je suppose que c'est comme les chiens, on ne vend plus.
Non, alors
de chats en annonce, comme on pouvait voir à Super U, le lof, pas le lof, alors je sais pas, le lof c'est pour les chiens, pour les chats
c'est pour les deux en fait,
ah,
pour les chats de race en fait.
Ça fonctionne plus, les annonces Super U, Internet, tout ça et
alors,
tout, sauf éleveur.
On est en train un peu aussi de se battre avec ces Royal Canin qui vient de créer une plateforme pour donner son chat entre particuliers. Donc ça a été signalé à la SPA, ça a été signalé à plusieurs grosses assos qui vont sûrement attaquer parce que c'est contre-productif, quoi. C'est vraiment, ça va à l'encontre de tout ce qu'on essaie de faire jusqu'à présent pour réussir à éviter ce genre de...
Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Peut-être que c'est pour endiguer l'abandon.
Ils partent sur le fait de dire on vous donne de l'argent en plus quand vous faites stériliser l'animal, on vous donne des
croquettes.
Voilà, enfin, des choses comme ça. Mais c'est assez... pour nous, ça va pas... C'est pas assez... c'est pas contrôlé, en fait, il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire qu'on va répondre à une annonce, on va récupérer un chat ou pas. On ne sait pas qui est la personne qui va récupérer le chat, on n'a aucune information sur elle. On ne sait pas si le chat va être bien, pas bien.
Et à part éleveur, donc ça, il faut quand même le dire, hein, que ce soit chien ou chat, hein, à part un éleveur agréé, entre guillemets, hein, voilà, un éleveur de Siamois, un éleveur de Birman, de particulier à particulier, on n'a pas à débourser d'argent. Les annonces où on dit donne chaton chartreux contre 200 euros, non, ça fonctionne pas.
Non, en principe, il faut créer. Alors, il faut avoir un numéro de SIRET. Il faut créer des annonces vraiment spéciales et spécifiques, hein, où on a quand même des numéros de puce des chats qui sont à donner. On a quand même déjà plein de choses à remplir.
Et il y en a assez dans la rue, je dirais.
Oui, voilà,
pour
c'est
pas
ça.
Avoir à
mais
débourser,
voilà, exactement.
Sur ce qu'on pourrait faire à titre individuel, parce qu'il y a des gens qui vont écouter l'émission, la réécouter aussi, parce qu'elle est en podcast, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Fait l'Impossible, les autres associations hein, qui s'en occupent, il y a une collègue à Ilo Pouche, il y a une autre qui s'investit aussi sur Calvi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a l'adhésion, il y a les dons, bien sûr. On est dans une période compliquée, je le sais, sortie de coronavirus, on ne sait pas si on y est encore ou pas. Les besoins, c'est quoi? C'est matériel, nourriture.
Bah donner peut-être aussi de son temps, de se dire que pendant un mois, bah, pourquoi pas être famille d'accueil. C'est un bon moyen également pour savoir si on est fait pour avoir un animal. Ça peut être un test, on va dire, pour voir si.
De la nourriture, de la litière.
Ah, ça, oui, ça,
ce serait vraiment
là,
ça qui dépannerait l'association.
Il y a ça, il y a le fait s'il y a une personne qui voudrait mettre à disposition un local avec de l'eau et de l'électricité pour qu'on ait une pièce pour pouvoir mettre les chatons, s'en occuper et pouvoir avoir un endroit vraiment...
sécure et...
Exactement, ça serait très très bien. Mais après, bon, là, on a deux chariots, un à Super U et un à Casino. Et c'est vrai que les gens mettent régulièrement et ça nous aide énormément.
Des Calvets sont généreux.
Oui, on les remercie d'ailleurs.
Alors, on va passer aux questions qui fâchent. Et on va aborder un petit événement malheureux, dramatique que tu as vécu. On s'était vu pour ça. Alors, la question qui fâche, la première, c'est est-ce que ça t'agace pas des fois à l'usure d'être Madame Chat à Calvi ? Est-ce que c'est un poids ou finalement ça te passe au-dessus, le combat est plus important ?
Non, ça ne m'agace pas plus que ça, non. C'est un choix, après il faut l'assumer, quoi. C'est un choix, c'est comme ça, et puis...
Là on parle de prévention, de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'usure aussi de toujours répéter les mêmes choses ?
Si, parfois c'est fatigant. Ouais. C'est un peu fatigant parce que ça ne rentre pas trop, mais bon... Après, bon, c'est comme ça, et puis on recommence et on refait encore une fois.
Est-ce qu'il t'arrive de refuser des adoptions ?
Oui. Oui, ça peut arriver que l'on ne sente pas la personne, que l'environnement n'est pas... on sait pertinemment que l'environnement ne sera pas bon pour le chat, donc on préfère éluder et ne pas répondre, ou voilà.
Et on va passer vraiment à cet événement qui était assez, assez dramatique et surprenant. Voilà, l'année dernière, à Calvi,
l'année dernière, c'était au mois de janvier. Hein.
C'était au mois de janvier, ouais. En début d'année. À Calvi, situation un peu rocambolesque, sur des signalements.
Sur un signalement qui avait été fait au mois de septembre à la gendarmerie. Où j'avais été appelée parce qu'on avait signalé une personne qui vivait enfermée avec des animaux. Et donc on s'est retrouvé dans un endroit totalement où une personne déjà humaine vivait, un endroit totalement insalubre, où on n'avait pas vraiment le nombre d'animaux, lui nous disait 15, on n'en savait pas plus. Ça a mis du temps avant d'instaurer une confiance, surtout avec une des bénévoles, qui a donné beaucoup de son temps et beaucoup de son énergie. On a réussi donc à être en confiance avec lui. Il l'a laissé rentrer et là on s'est aperçu que c'était 26 chats qui vivaient dans une pièce, dans le noir le plus complet, sans eau, sans électricité, bon ça à la limite, voilà, mais entourés dans des conditions d'hygiène, dans l'insalubrité la plus totale, bouffés par des blattes, enfin dans des états tous... catastrophique, dont certains étaient en train de mourir, enfin bref, c'était un peu l'horreur. On a réussi, par le biais de ruses, avec son autorisation, surtout à les sortir au fur et à mesure. Une amie m'a prêté deux appartements et on a délocalisé les 26 chats.
Et sur ces 26 chats, donc est-ce que...
Alors la moitié ont trouvé des familles qui les ont accueillis malgré les handicaps, parce que beaucoup ont eu problèmes de vue énormes. Des problèmes d'épilepsie. On a énormément de problèmes d'épilepsie. On a des problèmes aussi au niveau des otites qui n'ont pas été soignées avec des chats qui ont des tympans percés. Enfin bref, et sans compter des chats qui ont 7 mois et des dents de chats qui ont 15 ans. Ouais. Donc, dans des états vraiment pitoyables. Et donc, on a réussi à en placer une bonne moitié. Et l'autre moitié, c'est une dame qui a pris, que je remercie aussi beaucoup, qui a pris chez elle tous ses animaux et qui a un grand parc, tout ça, et qui s'en occupe vraiment très très bien. Et pour eux, ça a été un changement radical.
Dans leur malheur,
On a réussi à ce que certains aient des fins de vie dignes de ce nom, et, parce qu'ils ne sont pas tous survécus, malheureusement, et est-ce qu'ils puissent vivre une vie normale, entre guillemets, de chat.
On va passer...
À savoir, je m'en mets une chose, c'est que la plainte qu'on a déposée a fonctionné, enfin est allé au-delà, et qu'on passe au tribunal quand même le 4 novembre.
D'accord, donc...
Donc c'est une plainte pour mauvais traitement qui est là. Comme quoi, tout, voilà, ça ne reste pas impuni, le fait de maltraiter les animaux.
On va passer aux questions flash. Après, on va faire quand même... on va donner le numéro de l'association, on va donner le Facebook.
Oui.
Pour que les gens puissent... parce que là, concrètement, est-ce que là, il y a des chatons...
Oui, on en a à l'adoption.
On attente à l'adoption. Combien on en a,
On en a une dizaine de chatons en attente à l'adoption. Ils sont échelonnés entre un mois et demi. Bon, ça, ils ne sont pas encore... on ne les fait pas adopter. Il faudra attendre qu'ils aient deux mois. jusqu'à 5-6 mois à peu près. Donc, sachant qu'un chaton de 5-6 mois, c'est encore un bébé. Et que voilà quoi.
Oui, parce que les gens ils le veulent à 2 mois, voilà, absolument.
Ça changera rien, au contraire, on voit vraiment son caractère. 5-6 mois.
C'est peut-être même plus.
C'est encore mieux parce que on sait très bien s'il va s'adapter ou pas s'adapter. Donc c'est beaucoup plus facile.
Alors, on va passer aux questions flash. Si tu étais une qualité, quelle serait-elle?
Est-ce que c'est à moi de dire ça?
Ah, on n'est jamais son meilleur juge, mais.
Je sais pas, la générosité.
Un défaut.
Têtu.
Est-ce que tu as un héros de vie réelle ou de fiction qui t'a suivi tout au long de...
Un héros, non, pas plus que ça. Enfin, si, il y a plein de héros qui m'ont suivi dans tout ça, quoi, mais...
Il n'y a pas un qui ressort du lot.
Non, que j'ai plus aimé. Non, non, pas plus. Ça ne vient pas comme ça, en tout cas.
Ce que tu détestes le plus chez l'homme?
L'homme en lui-même? Non, ça... tout ce qui peut infliger aux animaux, aux enfants, enfin, tout ce genre de choses, en fait. Ça, sa méchanceté, cette méchanceté, cette cupidité, cette...
La chose dont tu es le plus fier?
Bah de voir que l'association, qui est un peu mon bébé, a pris un peu d'ampleur, on va dire, entre guillemets, et qu'elle est toujours là et qu'elle aide toujours les animaux et les personnes aussi en détresse, parce que c'est pas que des animaux, il y a aussi des gens qui sont derrière et qui ont besoin d'aide souvent.
Est-ce qu'il y a une phobie?
Non, j'ai pas de phobie. Enfin, de but en blanc... Manquer d'air.
Si tu pouvais revenir en arrière et dire quelque chose à l'enfant qui était à 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Bah, que ça ne va pas être facile. Forcément, ça ne va pas être facile, mais que ça vaut le coup et qu'il y a de belles choses qui arrivent et qu'il faut se battre dans la vie et jamais baisser les bras.
Alors moi, je récapitule un petit peu. On arrive sur la fin de l'émission. L'association fait l'impossible. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un compte Facebook.
Tout à fait. Association fait l'impossible Calvi. On a un compte Facebook que j'alimente régulièrement, même si parfois j'ai pas trop le temps et que voilà, j'essaie de faire au maximum. On a également donc l'Instagram aussi, Association fait l'impossible. On a numéro de téléphone après où on peut me joindre, me laisser un message parce que je travaille forcément à côté. Ce n'est que du bénévolat, il faut le rappeler. Hein.
Tout est sur Facebook. Oui, voilà, parce que tu gagnes. Il faut quand même le dire parce que bon, des fois, avec les associations, on entend parler. Le président de l'association veut partir avec de l'argent et tout ça et tout.
Président, c'est vraiment un gros truc, hein, forcément. Voilà. Hein.
Non, tout est en faveur des chats.
C'est du bénévolat.
Voilà. Je récapitule les besoins en plus d'alimenter les caddies à Super U et à Casino, hein, on va citer les deux endroits, plus que les besoins de litière et tout ça et tout, s'il y a des gens qui veulent s'investir, prendre un petit peu de temps pour filer un coup de main ou voire même... Alors, c'est difficile, hein, faire famille d'accueil, c'est difficile.
C'est pas facile parce qu'il y a des sentiments.
Parlant, c'est complexe.
Voilà, c'est une personne qui arrive un peu à se détacher, entre guillemets, mais qui est capable de donner pour autant beaucoup d'amour. Donc,
je note aussi qu'il y a des adoptions qui sont faites sur le continent.
Exactement, oui.
Donc, des fois, il y a des passages sur le Facebook, on peut voir.
Si on a des personnes qui
veulent. S'il y a des gens qui veulent prendre le chat pour le déposer à Nice ou à Paris ou à Marseille.
À l'aéroport, c'est ça. C'est vraiment.
C'est bien ça.
Des fois, c'est pas grand-chose, ça coûte rien.
Voilà, c'est juste prendre un sac au départ et donner un sac à l'arrivée. Les chats ne sont pas. Il n'y a pas de bombe, il n'y a rien. Ils sont sains, tout va bien.
Voilà, la prise en charge est prise.
C'est nous qui payons la
prise
en
par l'association. Donc, des fois, quand on voit passer le compte Facebook, ça va arriver sur la fin de saison. On va tous aller faire un tour sur le continent. Donc, si on peut filer un coup de main, récupérer un chat et le donner au futur propriétaire, non seulement on fera un petit peu pour le karma, ça fait du bien. Et en plus, on fait un heureux. C'est-à-dire, on arrive à Marseille, on a quelqu'un qui nous attend et qui tire pas la gueule.
Oui. En plus.
Voilà, on fait un heureux, donc ça fait.
Tout le monde s'y retrouve dans ces cas-là.
Exactement.
Et oui.
Voilà. Donc, je rappelle, voilà, un petit peu de temps et tout, et surtout, voilà, si c'est peut-être le maître mot un petit peu de cette fin d'émission et tout, la stérilisation. Voilà, ouais. Si vous avez des chats qui traînent, qui traînent sur le terrain ou chez vous, même s'ils ne sont pas à vous, ils sont quand même un petit peu...
Il faut arrêter de se dédouaner, il faut voir la réalité telle qu'elle est, on les nourrit, ils sont quand même un petit peu à nous. Et à ce moment-là, si on a des difficultés financières ou si...
L'association peut venir filer un coup de pouce ou même les vétérinaires font des échelonnements.
Voilà, on peut trouver des solutions et aider à ce que la situation ne s'envenime pas parce que c'est ce qui va se passer.
Le maître mot, puisque moi j'ai des amis qui ils ont le terrain, ils ont le jardin, ils ont la maison et forcément ils voient les chats. Donc, je pense qu'au début, ça part d'un bon sentiment, toujours d'un bon sentiment.
Toujours, on va lui donner à manger,
On
c'est
va lui
joli,
donner à manger et tout. Et puis, on se retrouve avec deux chats sur le terrain.
Ça se passe le mot et ça va vite.
Avec lesquels on leur donne des noms et tout ça. À partir du moment où il y a un affect qui est fait, voilà, vraiment essayer de les attraper. Alors, des fois, c'est pas possible.
Alors, on a les cage-trappes. Après, on peut mettre à disposition une cage-trappe aux bénévoles, aux personnes, on va dire.
Moi, je me souviens d'un qui m'a échappé. Toute une soirée avec Annabelle. Il s'était caché dans le moteur d'une voiture. Ça avait été un enfer. On n'a jamais réussi à l'attraper.
Écoute, moi j'ai connu ça avec mon chat deux fois. Le chat, il avait 4 mois. Il était dehors au début, enfin la nuit quoi. Il est monté dans le moteur de la voiture, tu sais, entre le pare-choc et le radiateur. Je suis parti de chez moi, je suis arrivé sur le parking de la radio. Il était. Il a fallu tout démonter. Il m'a fait le coup deux fois. Maintenant, bon, il ne peut plus l'agrandir.
Alors, ils se mettent soit sur le pare-choc ou soit à côté du lave-glace. Ouais. Là, tu as ce petit
rond-point. Non, mais là, c'était entre le radiateur et.
Sur le bloc moteur aussi, ouais. Ça peut arriver.
C'est ça.
Donc,
Alors, je monte la citadelle, j'entends miauler dans le moteur.
Moi, j'en ai un dans le tableau de bord qui s'est mis.
Super. Ah oui. D'accord.
J'ai réussi à le faire sortir, c'était tout con. En allant sur YouTube et en passant une maman chat qui appelait ses chatons.
Incroyable.
C'est tout con, mais ça a fonctionné. Mmh. Et le chaton, donc, ça faisait 2 jours que j'essayais de l'avoir. En mettant ça, il est sorti dans la foulée.
Et ce fameux chat qu'on cherchait avec Annabelle, c'est celui que vous aviez récupéré à la croix, qui était très mal en point. Le
D'accord,
petit roux.
Oui, je m'en rappelle.
Et au fait, moi, je soupçonne la personne qui avait la voiture, au bout d'un moment, parce qu'on lui avait fait ouvrir la voiture, et je sentais que, ça le gonflait un peu.
Oui.
Et finalement, ce chat était revenu sur ses pas pour se remettre dans la voiture. Mmh. Et il avait été découvert. Quand je vois sur le Facebook de l'association le même chat, en plus il était vraiment particulier parce qu'il avait la queue un peu rongée par les puces et tout. Et je disais à ma femme, c'est celui-là qu'on a essayé d'attraper toute la soirée hier soir. Et donc, oui, effectivement, j'avais demandé au voisin. Oui, j'ai été pêché hier au lavoir.
Forcément.
Donc, voilà. j'avais bien compris. Donc, stérilisation, voilà, maître mot. Si vous avez un peu de temps, bien sûr, les dons, tout ça, on sait que c'est difficile en ce moment, mais bon.
Ça peut être aussi simplement mettre un paquet de croquettes,
mettre un paquet de croquettes.
Ce genre de
choses. Toutes les initiatives sont le bienvenu. Est-ce qu'il y a des événements prévus
On est en train de mettre en place les calendriers pour 2022 et d'autres petits objets annexes qui permettent d'avoir une petite trésorerie pour les urgences, en fait. Parce que là, c'est vrai qu'en ayant eu la sortie des 26 chats, ça nous a vraiment, ça a été vraiment, c'est ça vraiment impacte. Très dur, ça impacte énormément au niveau de notre budget.
Voilà, c'est-à-dire que c'était un événement qui n'était pas attendu, et donc forcément, là on prend quoi ? On prend six mois de gestion.
C'est ça.
Voilà.
C'est énorme.
Donc on sera attentif, on essaiera de passer à la radio sur le site Facebook quand il y aura les calendriers, on n'hésitera pas. Colomba, je te remercie. Ça faisait
un moment que
je voulais t'avoir pour qu'on parle un petit peu de ça. On avait fait les chiens. Il y a aussi les chats. Moi, j'ai les deux et ils peuvent s'entendre.
Très bien.
Voilà. Donc, chers auditeurs, je vous remercie. La semaine prochaine, je reçois le beau gosse, Olivier Biancogne.
Ah.
On vous dit lundi prochain. Rendez-vous lundi prochain, 10h30.
Tu ça marche, je serai là, bien sûr.
Ouais, t'es toujours là, fidèle au poste.
Toujours là, moi. Toujours et vivant, toujours debout. Et toujours la banane.
Ne me lance pas sur toujours vivant. on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Merci.
Et bonne semaine.